Chapitre 6. Faut-il ? Vous me demandez, et vous ? Répéta Pierre Coombe, au bout d'un moment que Thérèse trouve long, et déjà elle se mordait les lèvres d'avoir fait une question après s'être jurée de ne pas questionner. Et moi, aurais-je de jolis moments en me promenant avec vous ? Mon Dieu, cela dépend de vous, il me semble. Pas si vous êtes méchante, en tout cas. « Je n'ai pas l'intention d'être méchante, » murmura-t-elle un peu déconcertée. « Bon, alors j'aurai de jolis moments. »« Vous êtes bien étrange, » fit Thérèse. Et le même doute revenait. Pierre-Ernest Coombe lui plaisait-il un peu ou lui déplaisait-il tout à fait? Sa manière était-elle légèrement cynique et impertinente ou seulement originale? Était-ce le genre admis d'un petit flirt à l'anglaise? On avait déjà fait un doigt de cour à Thérèse dans son coin natal, mais c'était différent, plus direct, moins narquois. Tout de même, comme il avait bien dit cette phrase, « Vous ne serez plus seul jamais ». Quelque chose tout au fond de son cœur, trop solitaire en effet, avait tressailli, avait répondu. Les larmes lui avaient presque jailli des yeux. Le jeune homme se levait. « Sans la politesse qui me retient, fit-il, j'aurais tiré ma montre. » Thérèse tira la sienne. « Il est 4h-10, » fit-elle d'un ton froid. « Que je ne vous retienne pas. » Au contraire, si je désirais savoir l'heure, c'était pour vous offrir une tasse de thé. Voulez-vous, il y a une crèmerie à la porte du zoo. Mais pas de visite aux cages, dites. Thérèse hésitait. « Faut-il que vous soyez peu anglaise, » dit-il avec quelque impatience, « pour faire des façons quand il s'agit d'une simple tasse de thé. » Et surtout, quand vous venez d'accepter une partie de bateau avec moi. « C'est vrai, je ne suis guère logique, » concéda Thérèse. « Et pas du tout anglaise, cela, c'est évident. »« Votre plus grand charme, » prononça-t-il à demi-voix. « L'anglais, oui, c'est entendu, il en faut pour mettre en ordre la surface du globe, mais on se passerait très bien des anglaises. »« Elles lui ont fait du mal ou du chagrin, » pensa Thérèse. Leur petit thé fut gai et leur conversation naturelle. Vers 5h, M. Coombe dit qu'il avait rendez-vous au bureau de son journal. Il rappela à Thérèse l'heure et le lieu de leur rencontre du lendemain. Il soulevait son chapeau quand elle lui tendit la main spontanément. Il eut alors un charmant sourire presque ému, le premier sourire tout à fait agréable qu'elle lui eût vu. Comme toutes les jeunes filles, Thérèse, dès qu'elle avait répondu affirmativement à la question des convenances ou de la conscience « Faut-il ?», se demandait immédiatement « Quelle toilette mettrai-je ? » Sa garde-robe, très modeste, offrait-elle ce qui convient pour une partie de bateau ? Grand doute et perplexité. Et l'inquiétude dura jusqu'à la première exclamation de M. Coombe sous le merveilleux arche quand Thérèse parut. « Charming, charming, et pas anglaise pour un sou. Mes compliments. Je ne demande pas si vous allez bien, cela se voit. Mais cette toilette, voilà une inspiration. » Thérèse, la veille, avait donné un coup de fer, de son petit fer à esprit de vin, aux plis un peu chiffonnés de sa robe de percale blanche à minces rayures bleues et au fichu Marie-Antoinette qui l'accompagnait. Elle avait noué à son cou un ruban bleu pâle assorti à la doublure du chapeau d'aubépine, caché dans des gants de fil blanc, ses bras nus jusqu'à mi-coude et mis ses plus fines bottines qui n'étaient point faites pour des aventures nautiques. Elle s'était demandé en sortant « Est-ce que j'oserais bien montrer dans les rues une mise aussi campagnarde ?» Mais M. Coombe, un homme du monde certainement, la trouvait bien, la rassurait. Qu'est-ce qu'une Anglaise invente pour se couvrir, je ne dis pas pour s'habiller, dès qu'on prononce le mot bateau. Une serge bleue épaisse, un col matelot et un canotier sec et nu. Vous, par ce beau soleil, vous êtes un petit bateau, ou, attendez, ce fichu à la mode de Trianon, vous êtes un pastel de la tour. On vous croquerait, ajouta-t-il en français, ce qui fit rougir Thérèse de surprise, et d'une confusion qui n'était point tout à fait désagréable. « Vous êtes ridicule et pas connaisseur du tout, » fit-elle en s'efforçant de reprendre quelque assurance. « N'importe quelle jeune fille vous dira que ma robe est d'une pauvre petite villageoise. » « Ah, j'aime que vous me trouviez ridicule. Notre intimité avance. Dans peu de temps, vous me trouverez tout à fait idiot. Alors ça ira très bien. Que veut-il dire, Seigneur ? Se demanda Thérèse, d'ailleurs peu alarmée. Elle monta dans le hansom qu'il avait appelé d'un signe. Elle en descendit quand on fut à l'embarcadère, au pied de grands escaliers. Elle se laissait faire, elle se laissait conduire, il semblait que son aimable compagnon évoquât magiquement pour elle tout ce qu'il fallait, un joli bateau plein de coussins rayés de rouge et de gris, avec un tendelet à franges où l'on pouvait se mettre à l'ombre, et puis l'eau clapotante, la berge verte, la rivière élargie, et bientôt cette adorable rive de jardin trempant dans l'onde, des fleurs, des saules, des nénuphars, des arbres magnifiques et des demeures de rêve au fond des avenues. Tout comme les jardins et les arbres d'Angleterre sont les plus beaux du monde, de même sont incomparables en grâce naturelle et en beauté cultivée les bords de la Tamise en amont de la métropole. M. Coombe avait expliqué à Thérèse qu'elle aurait à s'occuper du gouvernail. « Est-ce que je saurais ? Vous ne vous y connaissez pas beaucoup en canotage ?»« Pas du tout. J'ai toujours vécu sur une montagne. Comme vous ramez bien !» Elle admirait les mouvements longs et souples de ses bras, la fermeté des poignets, des mains qui n'avaient cependant aucune raideur d'effort. M. Coombe se mit à rire. « Vous riez de tout ce que je dis !» fit Thérèse avec une moue. « C'est que vous êtes si parfaitement non-anglaise. Vous n'avez pas vu ma cravate ?» Elle se demanda s'il avait un petit accès de délire, une insolation. « Votre cravate ? Qu'est-ce que votre cravate signifie ?» N'importe quelle femme ou fille d'Albion reconnaîtrait ses couleurs, les couleurs d'une équipe célèbre. Vous n'avez jamais vu les régates à Oxford ? En effet, je ne rame pas trop mal, mais je ne suis pas en forme. C'est la première fois de cette année que je revois le vieux père Tamise. Gouvernez un peu à droite. Il y a là un joli coin, nous pouvons nous y arrêter. Rien ne nous presse. À peine eut-on tourné une petite pointe de grands arbustes que Thérèse poussa un cri d'admiration. Sur une anse étroite et tranquille que rida leur bateau en y glissant, des nénuphars blancs d'ivoire, jaunes d'or et roses comme l'aurore, se balançaient sur leur verte nef de feuilles luisantes. Un saule trempé dans l'eau sa longue chevelure dénouée et une épaisse guirlande de myosotis bleu comme le ciel bordait le contour doucement arrondi de cette parfaite conque liquide. « Une estampe japonaise, n'est-ce pas ? » dit Pierre-Ernest Coombe en amarrant le bateau. « On voudrait rester ici toute sa vie !» s'écria Thérèse. « Ce serait long. Je voulais vous faire la surprise de ces nénuphars. Ils fleurissent ici beaucoup plus tôt qu'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. » D'ailleurs, les blancs seuls sont indigènes à la Tamise, les autres, jaunes et roses, quelqu'un les a plantés ou semés. Il y a en Angleterre beaucoup de gens qui rapportent des plantes exotiques et qui les mettent, non pas dans leur jardin, mais dans les haies, sur les eaux, n'importe où dans la nature sauvage. C'est une coutume ravissante, elle me fait aimer les Anglais, déclara Thérèse sans aucune préméditation. Merci. Fit-il avec un autre sourire, celui qu'elle aimait le moins, qu'elle trouvait ambigu. « Eh bien, moi, reprit-il, je n'aime pas beaucoup les nénuphars. Regardez celui-là, si rose, si confortable sur son coussin. Bonne conscience, belle vertu. C'est une Anglaise. »« Qu'avez-vous donc contre les Anglaises ?» demanda Thérèse, étonnée de cette persistance d'antipathie. « Rien du tout. Ma mère était anglaise, mes sœurs le sont à fond. »« Parlez-moi de vos sœurs, » fit-elle, hésitant un peu. « Ah non, par exemple, ce serait trop ennuyeux. Vous, jeune personne, vous allez monter ces longs gants et tremper vos doigts dans l'eau. Soyez confortable, n'en avez-vous pas envie ? Est-ce que je vous demande, moi, de me parler de vos sœurs ? Pas de biographie, ni de part, ni d'autre. » Notre biographie à tous les deux commence ici. Non, dit Thérèse avec quelque sentiment, notre biographie a commencé dans une affreuse ruelle où un chevalier sauva la damoiselle des griffes d'un dragon. Bon, si vous voulez, mais ça ne sera jamais que la préface d'une bien plus belle histoire. Il prit un temps, il regardait Thérèse qui ne souriait plus, qui pâlit un peu d'une émotion qu'elle ne put cacher tout à fait. Elle ne baissa pas les yeux, ce n'était pas dans son caractère. Elle les ouvrit plus grands, au contraire, et les fixa sur le jeune homme d'un air d'interrogation muette. Elle ne prononça pas une syllabe. Il se tut également pendant 2 ou 3 minutes. Thérèse fit alors un effort immense pour renouer la conversation en la dirigeant sur un autre objet. « Vous parliez de Watteau, de la tour, il y a un moment, et d'estampes japonaises. Vous avez vu beaucoup de grands musées, sans doute ?»«
Naturellement, comme tout le monde. »«
Et vous avez beaucoup voyagé ?»«
Pas mal, oui. » »«
Dans les pays chauds, parce que vous êtes un peu plus bronzé que le soleil de Londres n'aurait pu le faire. »
« Que vous êtes questionneuse! Voulez-vous que je vous cueille un nénuphar, 2 nénuphars, 3 nénuphars ?»«
Vous me parlez comme un bébé à qui on donne un bonbon pour qu'il se taise, » murmura-t-elle, fâchée surtout contre elle-même.
« C'est vrai, qu'est-ce que j'ai à le questionner ?»«
Je vous lis comme un livre, » fit-il au bout d'un instant. « Vous êtes d'une transparence ?»«
En êtes-vous sûre ?»«
Oh, tout à fait, et d'une fraîcheur en tout. » Une goutte de rosée. Tenez, cependant, que vous avez là, à votre cou, est-ce un emblème ? Thérèse n'avait pas de vrais bijoux, mais elle aimait son modeste pendant en cristal de roche, parfaitement pur, ovale et taillé à facettes. Elle y enfilait un ruban pour le porter à son cou. Aujourd'hui, il brillait doucement sur sa peau, dans l'échancrure en carré du corsage qu'encadrait une grosse ruche de tulle illusion. Ô mode chaste et naïve d'autrefois! Tout à coup, il lui parut que le regard brûlant du jeune homme sur ce cristal était comme le rayon qui, à travers d'une lentille, allume un incendie.